Mazda.
Le nouveau show 100% Marina Ro. Lui, il donne un show.
Moi, ça m'excite.
Jusqu'à midi, 100% sport et plus de Tony.
Tony.
BBM Sport.
On va ouvrir les lignes aujourd'hui. J'aimerais savoir, vous étiez avec qui hier? Vous étiez où exactement? Comment t'as célébré tout ça? Parce que j'aimerais entendre... J'aimerais vous entendre parler de vos émotions que vous avez eues durant ce match-là. Moi, je dois dire, là, j'étais presque vidé hier après le match.
Puis j'ai pas dormi.
Moi, j'ai regardé le match avec mes garçons hier. J'ai regardé le match avec mes garçons. Mais le but de la victoire, j'étais pas avec ma garçon parce que j'étais déjà dans ma chambre de podcast pour aller immédiatement en onde après le but.
Ben oui.
Dont je me suis séparé d'eux. Ils étaient dans l'autre pièce. Puis j'ai regardé comme le match tout seul à la fin de la prolongation tout seul. Mais les gars sont venus donner des hi-fi à un moment donné. Là, donc c'était bien cool. On va parler du CF Montréal qu'ils ont leur premier match demain. Mm-hmm. Nilton Jarre, c'est notre collaborateur de soccer. Des nouvelles du CF Montréal à matin, et ça, c'est la prolongation de contrat de Samuel Piette. Ça fait énormément de plaisir à tout le monde, parce que Sam y est bien aimé. J'imagine que ça fait énormément de plaisir à Sam aussi. Nilton Jarre de Couscous Piri Piri, One Soccer, Cannes Football Club. Comment vas-tu?
Ça va. C'est le fun, hein, des matchs internationaux. Toi et moi, on est un peu plus habitués aux matchs internationaux.
Oui.
Puis tu sais à quoi j'ai pensé ce matin? Je veux d'autres games, Canada-États-Unis. Et sais-tu quoi? Dans un mois, Ligue des Nations, si jamais le Canada gagne contre le Mexique et que les États-Unis battent le Panama, ce qui est fort probable,
oui.
Dans un mois, le 23 mars, on a peut-être un remake Canada-États-Unis au
ouais.
soccer.
OK. Oh, oui, t'as absolument raison. C'est bien de souligner. Je veux pas être négatif tout de suite en partant, là, parce qu'on est tout le monde, on est tous contents du fait que Sam Piette a signé une prolongation de contrat. Mais le Canada ont joué lundi
ah,
soir.
Ah oui, t'as raison.
Hein? Ils ont joué lundi soir. Ils ont joué jeudi soir. Le mardi, on allait parler de la victoire du Canada jusqu'à peut-être midi, 1h, 2h, 3h peut-être. Mercredi, c'est pas mal journée de congé. Il n'y a rien qui se passe dans le monde du sport, mais rien. Peux-tu m'expliquer pourquoi le CF Montréal annonce la signature du contrat de Samuel Piette le jour après...
Ben c'est
la
c'est
plus grande victoire
comprendre.
Dans l'histoire du hockey canadien depuis 15 ans.
Écoute, on n'a peut-être pas tous les détails, puis j'espère que les détails sont vraiment, vraiment bons à expliquer cette situation-là. On aurait pu attendre facilement une semaine. Si jamais on voit que c'était prévu, on peut attendre. On peut attendre l'annonce. Aujourd'hui, ça aurait pu être, oui, OK, le match est en fin de semaine, il faut une conférence de presse, c'est normal. Tony, je suis d'accord avec toi. C'est une des plus belles nouvelles. Le club a besoin de nouvelles. On a entendu des dernières rumeurs, t'en as sorti concernant Clark, que lui aussi entame des discussions. Je sais que Joel Waterman, son contrat, a créé une espèce de réaction en chaîne dans le vestiaire. Dans le vestiaire, on regarde Waterman, oui, t'as sorti des chiffres. C'est pas 700 000, mais c'est quasiment 700 000 avec les bonus qui sont faciles à atteindre. Le capitaine d'à côté, il se dit, attends une minute, là, moi aussi, là, je peux avoir quelque chose qui ressemble à ça. Neil arrive avec un nouveau contrat. C'est sûr que ça crée à l'intérieur du vestiaire une espèce de concurrence au niveau des salaires. Le club veut annoncer des belles nouvelles. Personne ne serait mort là, si on attend la semaine prochaine. Imagine, Montréal perd en fin de semaine, on sort une belle nouvelle avec Piette. Montréal gagne ou fait un match nul en fin de semaine, on continue avec une belle nouvelle. La nouvelle n'aurait pas sorti. Là. Il ne faut pas avoir cette méfiance éternelle pour dire « Oh, il faut le faire vite, sinon le scoop va sortir. » Même si le scoop sort, ça va passer un peu dans le beurre parce que, comme tu as dit, c'est une journée historique le lendemain de la victoire du Canada contre les États-Unis. On aurait pu attendre cette nouvelle-là. Là, ça met de l'ombre sur le capitaine, ça met de l'ombre sur celui qui a remplacé la figure de cette franchise après Bernier. Je trouve ça un peu dommage pour Samuel, ce qui arrive présentement, parce que c'est une belle nouvelle. C'est un nouveau contrat, 3 ans en incluant cette saison, plus une année d'option, ça fait en sorte qu'il pourrait être à Montréal jusqu'à l'âge de 34 ans. C'est bon pour le club, c'est bon pour les jeunes qui sont là en place. Mais le timing, Tony, tu l'as bien souligné, là, c'est pas le meilleur timing de l'année.
Et Olivier Brett s'est assis avec Samuel Piette pendant environ une heure de parler de ce contrat-là et du CF Montréal. Et ça, tu peux trouver ça sur toutes les plateformes sur la commission athlétique. Évidemment, le podcast Fond de filet avec Olivier Brett et Frédéric Laure. OK. Premier match de la saison demain soir à Atlanta. Les premiers 7 matchs de la saison vont avoir lieu à l'étranger. Faut aussi dire que ça a été annoncé. BPM Sport est le diffuseur officiel du CF Montréal. Jasmin Leroux d'RDS et Sidney Fowo à la description et à l'analyse pour le premier match de la saison, dont on va certainement les écouter. Tu t'entends quoi à ce match-là demain soir? Puis parle-moi de ton 11 partant.
Défensivement, c'est là que Montréal peut aller chercher un point. On l'a lu plus que vu que défensivement, le club a bien performé. Très, très hâte de voir l'animation offensive. Très hâte de voir les outils, comme tu dis, le 11 partant. Très hâte de voir quel genre d'animation offensive qu'on va avoir. Est-ce qu'on va on va se retrouver avec le même schéma tactique de l'année passée, c'est-à-dire deux milieux défensifs derrière un attaquant en pointe? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de différent comme on a pu voir un peu à Marie-Victorin où il y avait un milieu à trois? Est-ce que Herbert en a fait assez pour déplacer quelqu'un du 11 partant? Très hâte de voir si ce qu'on pouvait voir dans les schémas, est-ce que Clark a perdu un poste? Est-ce qu'on envoie un message à Caden Clark? Moi, ce que j'ai entendu parler de Clark, c'est que depuis son retour du camp, au niveau des entraînements, c'est pas tout à fait ça encore. C'est pas des grosses, grosses performances en entraînement. Puis on a tendance aussi un peu à surestimer ce qu'il a fait, avec raison, là. Il y a quand même eu seulement une expérience de 10 matchs à Montréal. Là-dedans, c'est pas vrai qu'il y a eu 10 matchs de qualité, là. Il y a eu 5-6 bons matchs. Et même que le dernier match contre Atlanta, c'est un des premiers qui sort à la 60e minute. Donc, oui, Clark a été bon, mais Clark a été bon avec Joseph. Très, très hâte de voir si Caden Clark est capable de prendre le volant de cette équipe-là et de créer l'offensive sans Joseph Martinez.
Max Schumann, dans les coulisses, dit avoir eu la chance de parler avec Gabriel Gervais, président du CF Montréal. Un Eddie Sinchuk est bel et bien arrivé à Montréal, dont toute la paperasse administrative devrait être terminée ce week-end, devrait être en mesure de s'entraîner avec l'équipe lundi. Je suis en train de lire le tweet de Max Schumann. Giacomo Vrioni est encore à l'écart du groupe. Il ne jouera pas demain à Atlanta. Il progresse toutefois bien. Il rencontrera les médecins du club la semaine prochaine à Montréal. On espère qu'il puisse obtenir le feu vert et rejoindre le club. Le club savait au moment de l'acquérir qu'il avait une blessure à soigner. Jalen Neal, lui, n'était pas blessé au moment de faire son acquisition. Il s'est blessé avec l'équipe nationale américaine. Et malgré plusieurs semaines à l'écart du groupe, Neal n'est pas guéri. On sent une inquiétude dans le ton et les mots employés par le président. C'est plus sévère qu'on pensait, il a dit. Le club a encore de la flexibilité, ne ferme pas la porte à l'idée d'ajouter des éléments avant la fermeture du mercato actuel. Le président n'a pas voulu commenter les rumeurs selon lesquelles Caden Clark, qui était dans sa dernière année de contrat, aurait demandé au club de doubler son salaire. Je ne commente pas les rumeurs. Caden est un joueur important pour nous, comme tous les autres joueurs. Il faut qu'il se retrousse les manches pour se tailler une place dans le 11 partant. Et il dit « Hâte de voir s'il sera titulaire demain », dit Max Schumann. OK. Nilton, comme tu sais, là, si je l'ai rapporté, c'est pas une rumeur. C'est un fact. La première chose, là, tu sais. C'est pas une rumeur, là. C'est
oui,
un fait.
Oui, puis je suis allé aux sources, puis on m'a répété à peu près la même chose. Puis on m'a aussi dit que Caden Clark, quand une équipe échange un joueur pour à peu près absolument rien, il y a une raison. Comme Vrioni a été échangé pour pas grand-chose, ils ont décidé de payer le salaire. Ben, la vraie raison, c'est qu'il est arrivé un peu blessé, puis on entend, on voit, est-ce que c'est une blessure qui va demander une opération? Lundi, ça va être un game changer. Est-ce que rendu là, il va avoir une décision qui va être prise pour aller chercher un attaquant? Mais Caden Clark, c'est pareil. C'est une personnalité un peu différente, avec du positif et du négatif. Mihailovic, quand il est arrivé à Montréal aussi, là, il y avait plein de drapeaux rouges à gauche, à droite.
Ouais.
Mais Nancy a été capable de le manipuler puis de façon positive puis de rendre un joueur nettement meilleur. On espère refaire à peu près la même recette avec Caden Clark, mais il y a des raisons. Lui, quand il voit arriver Neal, quand il voit ce qui se passe avec les autres contrats, il demande la même chose. Mais si je fais l'avocat du diable puis je me mets à la place de la direction, puis de Gabriel Gervais, j'ai pas le goût de donner tout de suite 700 000 à un joueur qui a eu 6 games. positive.
Oui, je comprends, mais c'est un club qui donne 500, 550 à des joueurs qui sont
exact,
sur le banc
exact,
depuis plusieurs, exact. plusieurs années. C'est ça le problème, là.
C'est exactement. Il faut être constant d'un joueur à l'autre. C'est un match à jouer. C'est une espèce de joute mentale à faire d'un joueur à l'autre. Mais oui, il faut être sévère avec tous les joueurs puis avoir la même ligne de conduite avec tous les joueurs. Est-ce qu'on est en train de faire ça? J'ai des doutes parce que quand je vois arriver, par exemple, un Prince Ousu où on donne un contre-tam pour un joueur qui a cette réputation d'être capable de rater des filets ouverts, mais qui est capable aussi de marquer des buts spectaculaires. Mais toutes ces réponses-là vont arriver dans les prochaines semaines, puis je pense que les premiers résultats vont aligner les futures décisions de la direction.
Oui, je peux même ajouter quelque chose là-dessus. Il a dit, hey, regarde la saison que j'ai eue l'an passé. Ils ont dit, ouais, OK, montre-nous de nouveau. Là, c'est juste une saison, là, c'est juste quelques matchs. Comme tu viens juste de dire. En tout cas, on va souligner ça. Du côté d'Atlanta?
Oh boy! C'est le club que Montréal aimerait avoir. Ils ont dépensé cette saison juste un petit 40 millions en mercato.
Wow.
Juste pour acheter les joueurs, pas pour payer les joueurs.
Wow.
Ils ont fait revenir Almiron il y a très, très récemment. Ils sont allés chercher Latt, qui est un très bon... Atlanta, il y a une philosophie totalement différente de Montréal. Les autres, ils n'achètent pas des joueurs pour les revendre nécessairement avec un profit. Ils sont même prêts à aller rechercher les joueurs qu'ils ont vendus pour gagner tout de suite. Eux, leur façon de faire, c'est de prendre des joueurs puis faire de l'argent avec les billets, avec les commandites, avec les revenus game match. C'est une équipe totalement transformée. C'est plus du tout la même équipe qu'on a vue l'année passée qui nous a éliminés. Ils ont un nouvel entraîneur, mais un entraîneur d'expérience en MLS. C'est un premier match très, très compliqué pour Montréal. L'avantage, c'est que c'est une nouvelle équipe. Peut-être que les automatistes en face ne seront pas tout à fait à point. C'est peut-être le meilleur moment pour affronter Atlanta, mais c'est à coup sûr un Atlanta qui ne va pas finir derrière Montréal. C'est un Atlanta qui va ressembler à l'ancienne mouture de Joseph Martinez et Almiron et Tata Martino comme coach. C'est unique. Ça s'enligne vers une autre puissance dans la conférence de l'Est qui s'annonce extrêmement difficile pour Montréal. Beaucoup de clubs de qualité, beaucoup de clubs qui se sont améliorés. Puis tous les points qu'on va être capable d'aller ramasser en ce début de saison à l'extérieur, ça va être des points hyper importants comme on l'a vu l'année passée où on était à un ou deux points de faire les playoffs.
Nilton, merci beaucoup. Content de te retrouver. Bon match demain soir.
Salut, bon week-end. Là.
Ça s'est dit quoi hier à Boston avant le gros match entre le Canada et les États-Unis? Tu vas écouter ça, là. Au retour après la pause.